Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec Anastasia Pichereau, la cofondatrice et CEO de MyDiaby, la start-up qu'elle a cofondée en 2015. À travers le déploiement de sa plateforme dédiée à la prise en charge du diabète, MyDiaby est devenu en moins de 2 ans le plus gros programme de télémédecine en France. Ce sont aujourd'hui 120 000 patients suivis à la plateforme, une utilisation par des centaines de CHU, centres hospitaliers, cliniques et médecins de ville. Anastasia partage les étapes clés de son parcours entrepreneurial depuis sa décision de quitter l'armée de l'air en 2013 au déploiement national d'une solution de télémédecine leader sur son marché. Dans cet épisode, Anastasia nous explique comment comprendre en profondeur les besoins de ses utilisateurs, comment définir son premier marché quand on se lance, comment aborder méthodiquement un gros problème du marché pour créer son MVP. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anastasia Pichereau, la cofondatrice et CEO de MyDiaby. Salut Anastasia, ça va ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Bah merci, je vais être super bien, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir contacté, ça me fait hyper plaisir parce que du coup, je m'intéressais à ce que vous faisiez depuis un moment et c'est vrai que j'ai pas l'opportunité, tu vois, d'inviter tous ces entrepreneurs avec lesquels j'aurais envie de discuter, donc top comme initiative. Aujourd'hui, on va parler de toi, ton aventure, ton parcours qui est atypique, vraiment c'est ça qui me fait kiffer parce que c'est vraiment la diversité des parcours sur ce podcast et comment tu t'es lancé de fil en aiguille dans l'entrepreneuriat en santé. Donc vraiment comprendre comment toi, une personne qui n'avait à peu près rien à voir avec la santé, on va le voir à travers ton parcours, t'en es arrivé à entreprendre et à monter ce qu'est MyDiaby aujourd'hui. Donc voilà, 45 minutes à la cool. Je te laisse te présenter, vraiment on va commencer de toute façon du tout début. Toi, qui tu es, dans quel environnement tu as grandi ?
Donc je suis Anastasia, aujourd'hui je suis la CEO et cofondatrice de MyDiaby et comme tu le disais, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce qu'à la base je suis pas du tout du domaine de la santé, on va dire, en termes des études que j'ai faites ou du parcours initial. Moi je viens du monde de l'aviation militaire en fait. Avant de créer cette boîte MyDiaby, j'étais pilote dans l'armée de l'air. Et puis, voilà, un petit changement de parcours a fait que j'ai choisi de me lancer dans la santé et créer une start-up pour innover et faire des choses un petit peu nouvelles, un petit peu modernes, qui avaient l'air de résoudre des problèmes.
Ça, c'est le pitch de qui tu es. Et du coup, on va aller un petit peu dans les détails, vraiment comprendre toi. Tu nous as dit, tu étais pilote dans l'armée de l'air. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel type d'enfant ou de personne tu étais plus jeune et pour comprendre un peu, tu vois, tes motivations dans la vie et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien avec ce que tu fais avec MyDiaby ?
Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'action. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui va relier toutes ces parties de carrière entre elles. C'est que J'aime bien construire des choses, résoudre des problèmes, toucher un peu à tout, découvrir des choses, apprendre, travailler en équipe. Et tout ça, ça tourne autour d'un point central qui est quand même l'action, le rythme, quelque chose qui a quand même un peu de challenge, un peu d'énergie à mettre dedans. Donc, je trouve que c'est le point commun un petit peu entre ce que j'ai fait jusque-là et c'est ce qui m'a toujours un peu attirée. Donc, je suis un peu ce genre de personne et j'ai toujours été comme ça, donc
T'es resté combien de temps dans l'armée ou dans l'aviation?
J'ai fait 6 ans d'armée de l'air. J'étais 6 ans dans l'armée de l'air, mais dans l'aviation un peu plus généralement. En fait, j'ai appris à piloter plus jeune que le début de ma carrière. J'ai appris à piloter à 15 ans, ce qu'on peut faire en France. Et du coup, j'ai dû piloter des avions pendant une dizaine d'années, dont 6 ans dans l'armée de l'air. Quand c'était mon métier.
Mmh. J'ai juste moi une question, on va aller très vite en avant, mais qu'est-ce que tu vois toi comme, je sais pas, comme similitude entre bah, ce quotidien, je pense que c'est une question qu'on t'a déjà posée, tu vois, mais entre ce quotidien bah, de pilote et le quotidien de start-upeuse dans la santé?
C'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que on se demande mais pourquoi en fait de l'un à l'autre il y a forcément un lien entre les deux. Et les similitudes, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui sont totalement l'opposé entre être dans une institution comme l'armée de l'air ou créer une start-up. Mais je trouve qu'il y a surtout des qualités et des comportements qu'on va avoir au quotidien qui vont se ressembler. Et pour lesquels le métier de pilote dans l'armée aide quand on veut créer une start-up. Et y a quand même, dans la santé en particulier, quand on veut créer une boîte, il y a quelque chose qui se recoupe pas mal avec l'armée, c'est que c'est des milieux quand même très très exigeants où on a besoin de méthodes, parce qu'on est dans le médical, parce qu'il y a des enjeux derrière, on a besoin de rigueur, et en même temps, on a besoin d'être très flexible et de savoir réagir à des inputs qui vont arriver de façon imprévue, sachant qu'on est aussi dans des environnements et des écosystèmes qui sont en mouvement. Donc, les points communs que je trouve un petit peu en termes d'état d'esprit et de façon de travailler dans ces deux domaines-là, c'est que un socle très méthodique et assez rigoureux va nous permettre, quand on arrive à bien le suivre, d'être flexible sur différents sujets et de tester des choses et d'aller plus dans l'incertitude parce qu'on a un niveau de méthode qui permet d'avoir un socle solide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans les deux aventures, on va dire.
Ouais, super intéressant. Et justement, bah, j'aimerais comprendre, toi, comment tu as fait ce switch. Quel a été un peu le point tournant dans ta vie quand tu as décidé, bah, toi, de quitter ce monde-là pour entreprendre? Est-ce qu'il y a eu une période de transition entre les deux et tu as réfléchi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te trottait déjà dans la tête depuis un moment?
Alors, en fait, moi, j'ai quitté l'armée de l'air en 2013 parce que j'avais, entre guillemets, vu ce que je voulais voir et surtout, j'avais envie de tester d'autres choses. Et au moment de quitter l'armée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Aucune idée. Ce que je me suis dit, c'est que je vais garder les oreilles et les yeux un peu ouverts, tester des choses, rencontrer des gens et je tomberai forcément sur des choses qui vont me plaire et qui vont me parler. Et en l'occurrence, quand j'ai quitté l'armée, j'étais avec un camarade d'escadron, Pierre Camille, qui a quitté l'armée en même temps que moi, et son père était diabétologue. Maintenant, il est à la retraite, mais il était diabétologue, et du coup, on a vu sa façon de travailler, et c'est là qu'on a commencé à faire connaissance un peu avec le milieu du diabète, et qu'on a eu, de fil en aiguille, envie de créer MyDiabi et de cofonder MyDiabi tous les deux.
Ok. C'était quoi un peu ces problèmes à donc, ce père donc, qui était diabétologue? Parce que tu vois, c'est pas le lien le plus évident avec votre travail d'avant. T'aurais pu entreprendre dans une industrie complètement différente. Mais toi, en quoi tu t'es dit, voilà, en fait, il y a un besoin et moi, je suis la bonne personne pour y répondre, tu vois?
Je savais pas si j'étais la bonne personne, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, on va se lancer, ça va être fun. Mais ouais. Le problème qu'on a identifié, c'est qu'en le voyant travailler et en voyant suivre ses patients, on s'est rendu compte que pour suivre convenablement un patient diabétique, les équipes médicales avaient quand même besoin de garder un lien entre des consultations et que les consultations en face à face tous les X semaines ou mois, c'était pas suffisant si on voulait vraiment bien suivre ses patients, ce que veulent faire en général les équipes médicales. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la télésurveillance, mais à l'époque, en 2014, ils savaient pas forcément qu'ils faisaient de la télésurveillance. Mais pour ça, ils utilisaient, pour garder ce contact patient-équipe médicale, ils utilisaient les emails, les appels téléphoniques, des choses comme ça, donc pas du tout pratique. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que dans cet hôpital qu'il y avait cette problématique, mais qu'un peu partout en France, les médecins diabétologues et leurs infirmiers et leurs paramédicaux avaient besoin de garder un contact avec les patients entre des consultes, mais qu'ils n'avaient aucun outil pour le faire. Donc nous, partant de ce constat-là, on s'est dit, mais attends, on a plein d'idées, faudrait faire une appli, faudrait qu'il y ait un carnet en fait, dans le téléphone et que ce soit partagé, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, bah, on va se lancer, on verra bien, rien à perdre, on va tester, et puis on avance petit à petit. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok. Et juste pour comprendre un petit peu, donc toi, quand tu quittes l'armée, Comment ça se passe? C'est quoi ta situation? Tu n'as pas de, t'as pas de job, t'as pas de backup derrière. J'imagine tu pars avec ce qui doit être une prime. Enfin, tu dois partir avec un peu une période où tu es confortable financièrement pour pouvoir avoir le temps de rebondir, ou comment ça se passe concrètement? Ok.
Rien du tout. Et à la base, le plan, c'était de partir faire une année en Australie pour voir
Ok,
quoi.
intéressant.
Je sais pas, pour kiffer un peu. Et ça s'est pas fait, mais pour cette transition, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un job, en fait, pour bosser un peu et ensuite débloquer le chômage. Et
Oui.
j'ai travaillé au parc Astérix pendant une saison, ce qui était très très chouette, soit dit en passant, où je manageais l'équipe qui s'occupait d'ouvrir le parc tous les matins, faire entrer tous les visiteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et même si c'était juste un boulot comme ça, parce qu'il m'en fallait un, j'ai appris, je crois, le plus de trucs en termes de management d'équipe dans ce job. C'était vraiment génial. J'avais un N plus 1 qui était excellent, hyper pédagogue. Hyper bienveillant, il m'a appris plein de choses en termes de management d'équipe. J'avais une équipe de 20-25 gens à gérer.
Là, c'est
Et
cool.
c'était trop bien. Voilà. Donc, au final, cette expérience-là, même si j'en parle pas souvent, Parc Astérix, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aujourd'hui pour gérer la team MyDailly, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, sur tous les invités qui sont passés sur le podcast, je pense que tu es une des invitées où il y a le plus de presse, on va dire, d'infos sur toi, sur ton parcours. Je pense que tu as quand même, à travers plusieurs expériences médiatiques, réussi, on va dire, à parler de ton projet, à faire parler de ton projet, du moins. Et j'ai vu un tweet d'un mec aujourd'hui qui disait que, justement, là où on apprend le plus sur les entrepreneurs ou sur les personnes, c'est entre les lignes, tu vois. Et tu vois, cette expérience, je l'ai trouvée nulle part. Et toi, tu me dis que c'est un des trucs qui t'a le plus appris en termes de management. Donc, c'est intéressant de comprendre que, tu vois, un job alimentaire, finalement, a pu t'apprendre comme ça. Et dans mon dernier épisode, juste pour faire un parallèle, il y a justement un entrepreneur qui a bossé, lui, chez McDo. Et il expliquait que il a énormément appris juste en bossant chez McDo. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ceux qui sont dans des jobs quotidiens, je pense que c'est une leçon, enfin quelque chose à retenir, c'est que peu importe ce que vous faites, voilà, il y a sûrement des leçons à tirer de vos expériences pro,
Ouais, c'est clair,
même
il y a toujours des leçons à
insignifiantes.
tirer. Même ce job-là, j'y allais sans aucune attente. Et parfois, quand on fait quelque chose sans aucune attente, on se retrouve à en retirer des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment sympa aussi.
Ok, et donc pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé, donc tu prends ce job-là, et par la suite, donc tu réfléchis au projet de MyDiaby en parallèle, j'imagine. Et à quel moment, voilà, tu te dis, ok, maintenant, pour aller à la prochaine étape, donc on a compris qu'il y avait un besoin, il faut que je passe en full time, ou alors est-ce que tu as vraiment attendu longtemps et tu as enchaîné sur un autre job? Comment ça s'est passé, un peu le passage à l'entrepreneuriat, vraiment à temps plein, et le saut dans le grand bain.
En fait, c'était assez facile entre guillemets parce que j'ai eu un moment où il fallait que je fasse un choix entre les deux. En fait, le parc Astérix, ça marche en saison, donc c'est ouvert du printemps à l'automne à peu près. Et à la fin de ma saison, vers l'automne, on commençait à créer les premiers drafts de MyDiaby, ce que ça allait être. Et puis l'hiver passe, bon, c'était en stand-by Parc Astérix, et là, fin d'hiver, on me redemande, est-ce que tu reviens la saison prochaine ou pas? Et du coup, là, fallait que je donne une réponse, donc je me suis dit, bon, full time MyDiaby, quoi, go, on va tester. Et voilà, donc j'avais besoin de choisir, bon, j'ai choisi ça.
Le projet en était où à ce moment-là? Est-ce que vous aviez déjà un POC, quelque chose qui était, on va dire, palpable et qui tournait un petit peu, même dégueu, dans les mains de vos utilisateurs?
Alors, pas encore. On était à quelques mois de sortir la première version. Là, on était vraiment plutôt à créer du contenu. Parce qu'à la base, enfin, le MyDiaby qu'on a voulu lancer au départ, c'est pas du tout le MyDiaby d'aujourd'hui. C'était encore assez frais. Et même la première fois, quand tu veux monter ta première boîte, il y a un petit peu d'admin à gérer, à débroussailler. Tu sais pas trop comment t'y prendre. Mais on était vraiment plus. On avait recruté notre dev déjà, qui nous a rejoint dès le début, donc ça c'était ok. Et on commençait à créer une sorte de site vitrine et un début de plateforme, mais ça allait sortir 2-3 mois après.
Et comment vous en êtes passé à donc ce besoin que juste donc comment on va l'appeler justement, enfin le père de ton associé avait à vraiment comprendre qu'en fait c'était quelque chose de beaucoup plus généralisé. Tu vois, comprendre l'état du marché, comment vous avez testé en fait le marché et compris que voilà, il y avait quelque chose à faire et puis établir une sorte d'état des lieux et à partir duquel partir pour construire cette première version.
En vrai, nous, on n'a pas fait l'exercice en mode très bons élèves, école de commerce, pour se lancer là-dedans. On y allait un peu, on n'y connaissait rien, on n'a pas du tout fait d'études là-dedans. En faisant 2-3 coups de fil aux hôpitaux, en se renseignant un peu, on a vu que en fait, sur les 500 à peu près hôpitaux en France qui font de la diabétologie, y en a quand même pas mal qui ont l'air de faire des emails et des suivis par téléphone de leurs patients. Donc on a testé. En fait, on n'avait pas tellement d'attente au début, et bon, c'est sûr que c'est pas la méthode, on va dire, qu'il faudrait appliquer pour lancer une plateforme, un produit, un projet. Aujourd'hui, on y est allé un petit peu, pas les yeux fermés, mais on n'a pas fait un énorme travail à la base là-dessus parce qu'on n'y connaissait rien. Mais on a quand même vu qu'il manquait quelque chose, quoi. Donc, on a avancé comme ça, petit pas, puis en fait, plus tu creuses avec le temps, plus tu te rends compte que ça sert à beaucoup, beaucoup de gens et ça va servir à beaucoup, beaucoup plus de patients que ce que tu croyais dès le départ, en fait.
Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parlons du diabète. Quelle taille de marché ça représente à la fois en France et puis voilà, il y a différents types de diabète et un petit peu quels sont les différents besoins auxquels vous souhaitiez répondre à la base.
Alors,
Après, on va parler un peu de comment ça a évolué par la suite.
Ok. En France, il y a 3,5 millions de diabétiques. Tout type confondu. Et dans ces 3,5 millions, il y a un gros 85-90% de diabétiques de type 2 et le reste diabétiques de type 1, plus à peu près 80 000 diabètes gestationnels. Donc, en gros, le diabète gestationnel, c'est le diabète qui apparaît pendant la grossesse uniquement chez des femmes qui n'avaient pas du tout de diabète avant, mais il s'avère que pendant la grossesse, la glycémie, elle monte. Voilà, donc il faut la réguler, il faut l'équilibrer pour pas que ça ait de conséquences négatives sur la mère à long terme et le bébé qu'elle est en train de porter. Donc ça, c'est le diabète gestationnel. Après, il y a le diabète de type 1 qui est vraiment qui apparaît sans raison particulière, qui peut apparaître à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Et là, c'est vraiment pas de chance. C'est le pancréas qui ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à produire l'insuline pour réguler la glycémie. Donc ça, c'est le diabète de type 1 à vie, avec des traitements quand même assez lourds. Et la grosse majorité de diabète de type 2, ça va être plutôt un problème de glycémie trop élevée dû à l'âge, la sédentarité et un petit peu la malbouffe, entre guillemets, je raccourcis vraiment, mais en gros, c'est ça. C'est les types de diabète qu'on a. Et nous, on a démarré avec le diabète gestationnel parce que, en fait, ça s'y prêtait bien, parce que c'est une partie de la patientèle des diabétologues. Donc, ça permet de tester des choses sans devoir changer toute une façon de suivre ses patients d'un coup, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, on teste sur quelques profils de patients, des patientes qui sont jeunes. Vu que c'est pendant la grossesse, on est quand même sur des femmes qui sont relativement jeunes, donc plus facile, on va dire, pour tester des solutions numériques. Un suivi qui est hyper condensé sur la durée, parce qu'on va être sur quelques mois, et on a besoin d'ajuster les traitements très très régulièrement. Donc ça nous permet de compresser un peu le temps, et d'avoir vite des réponses sur est-ce que notre truc marche, et est-ce qu'on arrive à résoudre des problèmes de suivi à distance, parce qu'on a vite des réponses. Donc c'est pour ça qu'on a démarré par le diabète gesta, et je pense que c'était plutôt un bon choix.
Avant de continuer cette discussion, je voudrais vous parler d'Infused Communications, le partenaire de cet épisode. Si vous écoutez régulièrement Entreprendre dans la santé et que vous appréciez la manière dont les entrepreneurs avec lesquels je discute arrivent à adapter leur message original, qui est souvent super scientifique, à l'audience de ce podcast, alors je pense que ce que fait Infused Communications devrait vous intéresser. Vous êtes entrepreneur scientifique, chercheur ou communicant dans le domaine de la santé? Vous aimeriez que chacun comprenne en quoi votre technologie peut changer la donne, mais la complexité de vos messages vous empêche de communiquer? Eh bien, Infused Communications vous aide aide à trouver les mots justes pour créer du lien et de la valeur autour de votre projet. Comment ? Eh bien en définissant une stratégie de communication qui vous fera gagner en visibilité, en produisant un contenu accessible et utile à chacun, quel que soit son niveau de connaissance scientifique, en vous apprenant à capter l'attention des personnes susceptibles de contribuer à votre développement. Alors n'attendez pas et utilisez dès maintenant la science de la communication pour communiquer sur votre science en prenant rendez-vous sur www.infused.be. www.infused.be. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'aimerais comprendre, est-ce que ça, c'était, vous le saviez à l'époque, ou est-ce que voilà, vous êtes lancé un peu, parce que tu vois, comme tu le racontes, on dirait que vous êtes lancé un peu au hasard, au tout début, notamment sur l'étude de marché. Mais comment vous êtes un petit peu renseigné sur le marché, comment vous avez acquis ces connaissances sur la santé, sans formation, sans expérience? Tu vois, c'est un shift quand même de passer de pilote à entrepreneuse dans la santé, dans une industrie où on va te demander, tu vois, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'experts. Comment vous allez vous positionner là-dedans ?
Alors, ça me fait penser à un point commun qu'il y a entre le pilote militaire et l'entrepreneur, c'est qu'il faut savoir apprendre des choses et il faut savoir chercher ses réponses, comme un grand. Donc là, il faut creuser, il faut apprendre, il faut chercher plein de trucs, il faut parler avec des gens, il faut parler avec des médecins. Après, nous, on n'a pas cherché à avoir la connaissance médicale du diabète de A à Z. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est en pratique, quand vous suivez vos patients, c'est quoi vos freins, c'est quoi vos problèmes et où est-ce que vous bloquez et où est-ce qu'on peut vous aider. Et au fur et à mesure, bon, on connaît les grandes lignes de la patho et de comment c'est traité. Après, on n'est pas médecin, donc évidemment... voilà, on ne va pas aller au niveau des études de médecine, mais nous, ce qu'on fait, c'est une solution numérique. Donc, à partir du moment où on arrive à comprendre les problèmes dans le suivi et dans le parcours de soins, on peut proposer des solutions avec nous, ce qu'on sait faire côté numérique, quoi.
Ouais. Donc, justement, parle-nous un peu du numérique. Donc, cette première version, on va dire, qu'est-ce que c'était, à quoi ça ressemblait et quel était le but ? Et surtout les résultats. Il y a beaucoup de questions, je suis désolé, c'est un gros défaut que j'ai, c'est que souvent je pense en même temps que je parle. Donc,
c'est pas grave, on va s'adapter.
Il faut que tu les vois comme des tiroirs en fait.
alors à quoi ça ressemblait au début ? À pas grand chose, vraiment, c'était pas ouf, mais ça faisait le job. En gros, nous, le premier truc qu'on voulait résoudre, parce que pour résoudre un gros problème, il faut le séquencer en plein de petits problèmes, donc premier petit problème, comment on fait pour que les patientes arrêtent de noter leur glycémie tous les jours. Alors, un petit peu de contexte, mais une patiente qui a un diabète gestationnel, elle doit faire 6 glycémies par jour. Elle mesure au bout de son doigt avec une goutte de sang 6 fois par jour, avant et après chaque repas, sa glycémie. Et à la base, elle le note dans un carnet avec un stylo. Donc nous, premier problème, c'est que ça, pour le suivre à distance, c'est pas pratique. Donc il faut qu'elle puisse mettre ça quelque part en ligne, connectée au cloud. Donc on a créé une plateforme avec un portail patient pour qu'elles puissent noter leur glycémie en ligne. Premier truc. Et bah, de l'autre côté, il faut que les médecins puissent avoir un accès de leur côté avec ces résultats-là, donc la liste des patientes. Et quand tu cliques sur une patiente, bah, tu as un tableau avec tous les résultats. Ça, c'était vraiment le MVP de départ sur quoi on est parti. Et premier problème résolu, c'est que bah, on n'a plus besoin de demander aux patientes d'envoyer toutes les semaines une photo par mail de son carnet écrit à la main. Et attendre qu'on l'appelle ou qu'on lui réponde par mail pour avoir des indications sur le traitement à prendre. Donc là, déjà, on résout un énorme problème. Et petit à petit, à partir du moment où tu pars de là, bah, tu as les médecins et les infirmières qui disent « Ah, mais ça, c'est trop bien, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas rajouter ça ? Est-ce qu'on pourrait pas rajouter ci ? Est-ce qu'on pourrait pas rajouter des alertes ? Est-ce qu'on pourrait pas rajouter une messagerie entre les deux ? Comme ça, on leur répond directement. Est-ce qu'on pourrait pas... voilà, il y a tout un tas après de choses qui vont découler de ça. T'as des lecteurs de glycémie connectés en Bluetooth qui vont arriver sur le marché de plus en plus. En 2015, ça commence à arriver pas mal. Donc du coup, bah, faut qu'on passe en appli mobile, faut qu'on connecte en Bluetooth, et au fur et à mesure, ça devient un truc beaucoup plus complet. Et là, on résout plein de petits problèmes à droite à gauche pour fluidifier ouais. Tout ça, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est un point commun, enfin ça que tu partages avec pas mal d'entrepreneurs en santé qui ont en plus un profil tech généralement, c'est que eux ils savent comment résoudre ces soucis. Après ils ont pas forcément la connaissance terrain. Toi comment concrètement tu as fait pour comprendre le quotidien de ces patients et de ces professionnels de santé Est-ce que tu as un conseil à partager là-dessus quand on ne vient pas du milieu médical?
Là, c'est vraiment un conseil humain. Enfin, faut travailler son empathie. Faut vraiment essayer de les comprendre au plus profond dans leur quotidien. Faut limite passer des journées avec eux, entre guillemets, pour voir comment ils travaillent. Quand on demande comment vous suivez vos patients aujourd'hui, au-delà de s'arrêter à la réponse, je les suis par email. Faut creuser, quoi. Mais comment ça par email? Combien de fois par jour? À quelle heure? Vous répondez comment? Vous répondez quoi? Faut rentrer dans le super détail. Et après, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Et il y a une question que j'aime bien poser pour améliorer la partie produit, parce que je suis encore beaucoup sur la partie produit, que j'adore. C'est qu'est-ce que vous faites à répétition? Et qu'est-ce qui vous prend du temps? Parce qu'à partir du moment où un humain fait un truc à répétition, ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement l'automatiser si c'est vraiment toujours la même tâche. Et c'est le job du numérique, c'est l'intérêt, c'est qu'on puisse laisser les humains faire ce qu'ils font bien en tant qu'humains. Mais par contre, tout ce qui est faisable par une machine et qui n'a aucune valeur ajoutée d'être fait par un médecin ou une infirmière ou un infirmier, on l'automatise parce que sinon ça n'a pas de sens.
Donc pour comprendre concrètement comment vous êtes organisé pour sortir cette première version pour les patientes atteintes de diabète gestationnel, vous dans l'équipe, donc toi et le cofondateur, Pierre Camille, c'est ça, vous avez à peu près les mêmes compétences, j'imagine, après peut-être pas le même état d'esprit. Et tu peux m'expliquer comment vous êtes répartis les rôles et surtout comment vous êtes arrivé à sortir un produit en fait?
Alors, on a à peu près le même parcours, mais on est un tout petit peu différent sur les compétences qu'on a. Après, on teste, hein. On a testé des trucs, on a essayé, on bosse à deux, on bosse chacun dans notre coin, on teste des méthodes de travail et on voit là où on y arrive le mieux et ce qu'on préfère faire. Lui, il a l'avantage de pas trop avoir peur de lancer des choses. Moi, je vais plus considérer toutes les options et essayer de minimiser le risque. Donc, mis bout à bout, on arrive quand même à créer des choses bien parce que ça permet d'équilibrer deux morceaux de personnalité pour faire quelque chose de relativement stable et concret qui arrive à des résultats. Donc, on teste et c'est arrivé plusieurs fois qu'on s'échange des rôles. Puis finalement, on se dit non, finalement, moi, je préfère faire ça. Oui, c'est vrai. Et puis toi, t'es meilleur en ça. Ok, faisons comme ça. Mais on s'est pas dit. Où on démarrait, toi tu prends ça, 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 moi je prends ça, 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 et puis okay. Le tout c'est de flex, quoi.
Ça c'est intéressant. Moi ce que j'entends beaucoup c'est que tu vois les investisseurs, peut-être que ça va venir après, mais j'en sais rien, cherchent vraiment une répartition des rôles dans une équipe, surtout quand les cofondateurs ont à peu près les mêmes compétences. C'est intéressant de comprendre que c'est aussi possible, au moins au début, enfin jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui, de s'en sortir en ayant à peu près les mêmes compétences. Après, pas les mêmes soft skills, pas les mêmes mentalités, mais ok. Et justement pour la partie produit et la partie dev, tu vois, ça peut un peu faire peur aux gens de sortir un produit numérique quand on n'a aucune compétence en technique, en codage, etc. Vous, comment vous y êtes pris au début?
On a eu la chance de trouver un excellent dev, mais vraiment excellent, dès le début, qui est associé de la boîte, hein, qui est avec nous depuis le début. Donc ça, vraiment, pour le coup, c'est la partie chance dans tout le process qui nous a vraiment aidés. Moi, je suis très dans la partie conception de la plateforme, donc à travailler avec un dev excellent, on arrive à faire des trucs assez chouettes.
Okay. Et justement, on va en arriver à une partie importante, c'est comment tu payes ce dev, comment vous payez-vous au début. Donc tu nous as parlé du chômage, mais est-ce que vous avez, je le sais parce que du coup j'ai un peu fait mes devoirs, vous avez trouvé des moyens de faire durer l'aventure pendant un moment, des moyens alternatifs on va dire, ou des moyens un peu parallèles? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le business model de MyDiaby et comment vous avez commencé?
Ok, ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais levé de fonds et le business model dans les startups santé, c'est vraiment le sujet clé. Au début, ouais, il y avait un peu de chômage, évidemment, donc Pôle emploi, merci. Et puis après, alors, il y a un petit peu un business model à long terme et un business model à court terme parce qu'on a besoin de quand même de payer les gens en attendant. À long terme, c'est remboursement par l'assurance maladie. Donc ça se tricote petit à petit. Là, on avance quand même pas mal. En 2021, ça commence à se concrétiser bien pour les plateformes de télésurveillance. C'est maintenant considéré comme des dispositifs médicaux. Donc le parcours de remboursement, il avance bien. Donc le business model se concrétise. En attendant ça, il n'y a pas toujours eu évidemment le remboursement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu creusé à droite à gauche dans tout cet écosystème, voir à qui peut profiter entre guillemets et qui ça aide et à qui ça fait du sens d'investir entre guillemets dans une plateforme comme ça. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à faire des partenariats avec des labos pharma qui eux ont envie d'innover entre guillemets, je prends entre guillemets ce mot innover, mais bon, qui ont envie d'innover, de faire des choses un peu dans le numérique mais qui savent pas trop comment s'y prendre parce qu'ils ont un ADN de grands groupes, donc qui est très dur à faire bouger. Et pour eux, ça avait du sens de nous soutenir en s'affichant comme partenaire avec nous, et ça nous a fait un soutien financier qui nous a permis de nous développer jusque-là. Après, c'est sûr, sans lever de fonds, voilà, tu gagnes pas beaucoup de cash. On est resté 3 dans l'équipe pendant 3 ans, hein, 3 ans et demi. Là, ça fait 6 ans que la boîte existe, donc la plus grosse partie du temps, on n'était que 3, et du coup, 3 avec pas de salaire ou des petits salaires. Quand je dis petit, c'est SMIC, un SMIC pour 2, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Donc voilà, bon là, faut mordre le coussin un peu, faut travailler très 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 fort, et puis pas lâcher entre guillemets, mais voilà. Enfin, au final, on a bien fait parce qu'on a réussi à pas lever de fonds, et moi, je suis plutôt contente. Enfin, c'est quand même un luxe de pas avoir levé de fonds.
C'était quoi justement un peu vos réflexions sur le fait de ne pas lever de fonds? Je pense que vous en auriez eu complètement la capacité, parce que voilà, vous aviez quelque chose qui tournait, vous aviez le remboursement, on va dire, en ligne de mire, et là vous êtes bien lancé. Le but, c'est tout simplement de pas diluer, ou est-ce que vous avez vraiment un autre intérêt derrière tout ça?
Franchement, on n'a jamais réussi à vraiment lever des fonds, et quand on commençait à y arriver, il y avait un truc qu'on sentait pas. Il y avait un truc qu'on okay. sentait pas avec les VC. On n'avait pas l'impression qu'ils comprenaient vraiment là où on allait, notre façon de fonctionner. Et alors, je pense pas qu'on était les bons élèves pour lever. Parce que même si le business model avec le remboursement, il commence à être de plus en plus clair, à l'époque, c'était quand même un gros, gros risque pour les investisseurs. Parce que, voilà, ça fait quand même une grosse part de risque d'avoir, de tout parier, entre guillemets, sur un futur possible, probable, on sait pas trop, remboursement. Donc c'était pas si évident que ça de défendre notre biftech, mais ouais. Bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, on a réussi à faire sans quoi. Ouais, okay. C'est pas que un choix, hein, c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment réussi non plus.
C'est intéressant, et c'est peut-être, je sais pas, enfin hein, tu vas me dire, c'est peut-être, je sais pas, une sorte de manque de code, je sais pas, ou alors le fait, tu vois, tu le vois comment, est-ce que c'est un truc un peu en interne? Vous, il vous manque, je sais pas, certains codes, ou est-ce que c'est l'écosystème de l'investissement qui, en fait, n'est pas, n'a pas la connaissance de la santé et a du mal à investir. De toute façon, enfin, ça a été aussi prouvé, c'est que voilà, il y a quand même un problème sur l'investissement dans la santé en France et en Europe en général quand on compare aux États-Unis. D'où ça vient, selon toi?
Bah, l'écosystème de la santé en France, il n'est pas évident, parce que à partir du moment où tu ne peux pas présenter à un investisseur X clients me rapportent tant, et moi j'ai déjà X clients aujourd'hui et je peux déployer sur X parts de marché si j'investis tant dans ma boîte pour recruter tant et faire ça, bah, tant que tu n'as pas cette équation qui est propre et qui a du sens, c'est un peu compliqué pour lever des fonds. Et dans la santé, c'est souvent parce que tu rentres dans le DM, ou alors les modes de financement sont pas forcément encore bien définis. Nous, c'est du remboursement sécu, mais quand tu sors un dispositif médical où il faut d'abord faire des études cliniques qui prennent des années et plein d'argent, où t'es pas encore sûr du résultat, bah forcément c'est pas évident non plus d'investir là-dedans. Donc je pense que c'est un problème qui est aussi dû au secteur. Ouais. Et c'est risqué en fait. Donc pour un VC, c'est risqué et c'est plus dur.
Donc vous avez bossé très fort sur le produit. Et vraiment, vous êtes focus à fond sur ce besoin. Vous l'avez, on va dire, exploré au maximum. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous présenter MyDiaby? Où est-ce que vous en êtes le 2 février et comment vous avez amélioré ce produit?
Là, aujourd'hui, MyDiaby, c'est le leader dans la téléassurance du diabète en France. Donc, c'est la plateforme qui est la plus utilisée. Concrètement, ça se présente sous la forme d'une appli mobile pour les patients sur lesquels ils vont connecter tous leurs dispositifs de suivi et de traitement du diabète. Donc, ils connectent tout ça sur l'appli et toutes les infos vont être transmises via le cloud aux équipes médicales. Côté équipe médicale, il y a des alertes qui vont se déclencher automatiquement pour indiquer quels patients ont besoin d'un petit conseil dans les ajustements de traitement ou quels patients vont bien et il y a juste besoin de leur dire c'est bien, continuer comme ça. Ça, c'est vraiment le cœur. Après, voilà, ils peuvent communiquer entre eux. Il y a pas mal de petites fonctionnalités pour fluidifier les parcours de soins. Mais en gros, MyDiaby aujourd'hui, c'est ça. Et là, on rentre 7-8 000, voire un peu plus, je crois, en janvier, on a vraiment rentré beaucoup de patients, 8 500 patients par mois, nouveaux, qui sont inclus sur la plateforme. Et c'est utilisé par 370 hôpitaux en France. Ouais. Donc voilà un petit peu aujourd'hui à quoi ressemble MyDiaby.
Ok. Et donc pour comprendre un peu cette croissance énorme côté utilisateur et patients, personnels médicaux, comment vous avez tout simplement orienté votre stratégie d'acquisition en termes d'hôpitaux tout simplement pour acquérir d'énormes bases utilisateurs? Comment vous avez fait ça avec, on va dire, enfin tu nous l'as dit, si peu de moyens?
Alors oui, il faut être hyper efficient quand on n'a pas beaucoup de moyens. Du coup, on a quand même dès le début l'intuition qu'il fallait passer par les équipes médicales et que ce serait plus facile de faire le schéma d'un médecin qui prescrit à son patient MyDiaby et qui va lui dire « je vais vous suivre sur cette appli », ce sera plus facile, voilà. Plutôt que d'aller côté patient, leur dire d'utiliser l'appli pour que eux derrière proposent à leur médecin de regarder leurs résultats sur l'appli, ça nous semblait un petit peu compliqué comme façon de faire. Donc on est tout de suite parti vers les centres hospitaliers, on a commencé par les hôpitaux, mais il y a les cabinets aussi hein, qui utilisent pas mal. Et du coup, chaque hôpital qu'on arrive à, chaque service de diabéto qu'on arrive à passer sur la plateforme, ça nous fait entre 100 et 300 patients inclus par an. Donc voilà, on a fait comme ça et ça marche hyper bien. Donc à partir du moment où on trouve quelque chose qui marche bien, on continue. En général, on fait comme ça et on fait toujours comme ça du coup depuis le début. Là.
Est-ce que tu penses que donc une des forces, c'est moi de ce que j'ai compris, c'est votre approche très terrain. Vous avez super bien compris le besoin et côté financement, côté prix, c'est gratuit du coup actuellement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une vente à un moment ou pas du tout?
Ouais, alors c'est gratuit, c'est le raccourci en fait, point de vue patient et point de vue équipe médicale. En gros, c'est juste que c'est pas eux qui payent. C'est pour ça que de leur point de vue, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Et en gros, c'est financé soit par la Sécu, parce qu'on commence à avoir. En ce moment, il y a des expérimentations qui sont mises en place hein, par le ministère de la Santé. Pour tester des modèles de financement sur la télésurveillance. Donc ça, c'est une partie qui est un pré-remboursement, on va dire, qui finance la plateforme. Et tout ce qui est les partenariats avec les labos pharma, en gros, c'est eux qui sponsorisent ou qui financent ça pour les utilisateurs. Donc c'est gratuit, point de vue patient-médecin, mais c'est pas, il y a un payeur, en fait. C'est juste que c'est pas eux les payeurs.
Ouais. J'ai deux questions là-dessus. Vous, quelle contrepartie vous proposez au Labo Pharma dans ce type de partenariat, de sponsoring? Comment ça se matérialise concrètement?
Ça va dépendre un petit peu des accords qu'on arrive à avoir avec chaque labo. Et pour le coup, c'est assez... personnalisé en fonction de qui on a en face de nous. Il y a des labos pharma qui vont être plutôt fabricants de lecteurs de glycémie connectés, où là, eux, ils ont forcément intérêt à se connecter sur notre appli. Donc, on arrive à s'arranger sur ce sujet-là. Et puis, il y en a d'autres pour qui ils vont vraiment vouloir s'afficher en tant que partenaire à côté de nous. On va communiquer ensemble, on va faire des études ensemble, cliniques, on va plutôt avoir des projets ensemble. Et du coup, voilà, ça va dépendre un petit peu des terrains d'entente qu'on va trouver avec chaque industriel.
Est-ce que vous avez une stratégie derrière tout ça ou est-ce que c'est un petit peu au gré des rencontres, des intros qu'on vous fait, de, je sais pas, des sorties de produits, des projets, voilà, où vous dites, ok, là, il y aurait sûrement un match avec ce labo.
Faut essayer de... Alors, les individus dans chaque boîte vont vraiment être clés, hein, parce qu'on peut tomber sur des gens très moteurs avec qui on fait des super projets et ça va vraiment apporter des trucs, des résultats... très très positif, mais là oui, c'est sûr qu'il faut connaître son écosystème, faut connaître les labos pharma, ce qu'ils font, quels sont leurs intérêts et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Nous, on sait ce qu'ils peuvent nous apporter, clairement, c'est du soutien financier, mais nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter et comment on va pouvoir les aider potentiellement à se démarquer de la concurrence si c'est ce qu'ils cherchent à faire, comment on va pouvoir les aider à faire X ou Y, et puis après, bah, faut y aller, quoi, faut dire bonjour, c'est moi, je suis là et je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Et après, on construit ça comme ça, donc c'est du cas par cas. Mais...
Oh. Et je pense qu'un élément qui aide bah, pour les convaincre, c'est le fait que bah, tout simplement, vous êtes pionnier et leader dans ce milieu-là. Est-ce que toi, tu pourrais un peu nous expliquer, bah, vous, quel avantage ça a d'être leader? Ou est-ce que tu peux nous dire si vous vous considérez comme des pionniers ou est-ce qu'il y avait déjà une solution, on va dire, existante, concurrente?
Alors... On n'a pas inventé la télésurveillance. La télésurveillance, elle s'est entre guillemets... Enfin, personne ne l'a inventée. Elle s'est un peu inventée toute seule. C'est comme la téléconsultation. Personne ne l'a inventée. C'est juste qu'à un moment, tout le monde s'est dit on ne peut pas faire une visio avec son médecin pour juste avoir un renouvellement d'ordonnance. Oui, bon, bah voilà. Donc, c'est un peu la même chose. On n'a pas inventé la télésurveillance. Il y avait des projets qui commençaient à sortir à droite, à gauche. Après, l'avantage que nous, on a eu, c'est qu'on était, entre guillemets, des outsiders. Et qu'on était en gros les entrepreneurs qui se lançaient sur le sujet. Les autres projets qui ont été lancés, souvent, c'était soit lancés par des professionnels de santé qui se sont dit « mais moi, il me faut cet outil, je vais le faire ». Et ce n'est pas évident parce que quand tu es médecin, bah, déjà, tu as un métier qui est hyper prenant. Et puis, tu n'es pas entrepreneur, tu es médecin. Donc voilà, il y a des choses que tu ne peux pas improviser non plus. Ou alors t'as des projets qui vont être plutôt proposés par les ARS où ça va être très régional, donc forcément c'est déjà limité même au moment de la création, c'est déjà très limité dans le temps et dans l'espace, donc c'est pas des projets qui vont réussir à déployer sur le long terme comme nous on a fait. Et au final le fait que nous on soit purement dans la création de produits, dans l'entrepreneuriat et dans la résolution de problèmes, on a pu aller très très loin, et nous on n'a jamais compris qu'il y ait des frontières entre les régions en France, donc on fait un produit qui est accessible à tout le monde. Est-ce que les centres peuvent être connectés ensemble sur la plateforme? Bah, pour nous évidemment que oui, enfin, c'était même pas des questions qu'on se posait, et du coup cette ignorance un peu entre guillemets du système de santé dans l'état où il était à l'époque, bah, ça nous a permis de ne pas voir des obstacles que d'autres personnes verraient en fait, et comme ça on a avancé.
Je pense que c'est hyper intéressant et c'est applicable à plein d'autres domaines, le fait de ne pas avoir été formaté, tu vois. Typiquement, bah, pareil sur le sujet des levées de fonds, c'est que vous n'avez pas été formaté dans cet écosystème entrepreneurial de « voilà, on fait ça à tel moment, on sort telle version et puis paf, on lève des fonds, paf, on va sur tel marché, etc. » Bon, ça marche, hein, c'est sûr, ça a fait des success stories. Mais voilà, il y a peut-être d'autres modèles à trouver, et je pense que MyDiaby est un bon exemple pour ça.
Après, tu peux prévoir un plan, mais il y a quand même 90% de chances que ça se passe pas comme ça.
Bah, exactement. Donc, on arrive à la fin de notre échange, Anastasia. Quel est un peu le futur, les grandes étapes, les grands objectifs pour MyDiaby?
Alors pour nous, 2021, il y a un sujet clé, c'est le remboursement. Et du coup, pérenniser ce business model. Parce que sur le terrain, c'est bon, on voit que ça marche. Les patients, c'est 10 000 fois mieux pour eux. Les équipes médicales, ça n'a rien à voir. Ils arrivent à mieux gérer leurs patients, à mieux s'organiser. Ils gagnent un temps fou. Donc ça marche nickel. Maintenant, ils font un business model qui dure dans le temps. Donc ça, c'est le sujet de cette année, qu'on a déjà démarré il y a quelques années. Mais pouvoir trouver un modèle de remboursement pour notre plateforme, mais aussi financer les équipes médicales. Parce qu'aujourd'hui, une infirmière, un médecin qui fait de la télésurveillance, pour l'instant, il n'a pas de forfait pour le rémunérer. c'est pas encore autant abouti que la téléconsulte. Donc ça, on essaie aussi de les faire avancer sur ce côté-là, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc ça, c'est le gros sujet pour nous de cette année. Et après, on a encore beaucoup, beaucoup de questions d'interopérabilité, parce que dans le diabète, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs de mesure de glycémie, tout ce que les patients utilisent chez eux, les pompes à insuline, les stylos à insuline, les lecteurs de glycémie, etc. Tout ça, il y en a des nouveaux qui sortent très, très régulièrement, en fait, sur le marché. Et donc, nous, il faut toujours qu'on suive et qu'on connecte des nouveaux appareils, qu'on connecte, pour que, en fait, il y ait le moins d'obstacles possible pour les patients pour partager à leur médecin leurs données. Donc ça, ça reste un des gros sujets qu'on a aussi toujours en tête cette année. En gros, voilà.
Ok. Et selon toi, dans toute cette aventure, quel a été votre plus gros challenge, tu vois, la plus grosse galère de l'entrepreneuriat en santé, selon toi?
C'est pas facile hein, comme question, parce que en gros le plus gros challenge c'est que des challenges en fait, c'est que ça, c'est il faut apprendre à s'habituer aux problèmes quoi. Et le challenge c'est que t'auras pas un problème ponctuellement, les choses que tu vas avoir à gérer, à résoudre, elles sont sur du ultra long terme. Donc c'est ça le plus dur, et encore plus dans la santé. Déjà pour une start-up c'est pas évident, il faut être assez déterminé, il faut s'accrocher quand même longtemps, pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour vraiment mettre son projet en orbite, comme j'aime bien dire. C'est un petit peu l'analogie que je fais, c'est vraiment ça. Mais dans la santé c'est encore plus long, parce que on est dans un écosystème où il y a la sécu, il y a l'assurance maladie, il y a les payeurs, il y a les patients, il y a les médecins, donc il y a plein d'acteurs, et donc là il faut être très 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 endurant sur tous les sujets. Donc le plus gros challenge c'est ça en fait, c'est l'endurance.
Et quel conseil du coup tu donnerais, pas forcément lié à l'endurance, mais quel conseil tu donnerais à Anastasia qui voilà, se lance, c'est sa première expérience pro après ses études songe à entreprendre dans la santé un jour?
Je pense qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est de ne pas vouloir tout résoudre d'un coup trop vite. Et c'est pas mal de prendre les problèmes un à un, et en gros de séquencer ce que tu veux faire. Parce que si tu vois trop gros dès le début, ça peut être décourageant, et surtout les objectifs, les micro-objectifs qui font partie du gros objectif global vont beaucoup évoluer avec le temps. Donc si tu as un objectif trop large dès le début, tu risques de te perdre dans ton truc. Et il faut toujours rester très, très flexible et très à l'affût de ce qu'on va avoir besoin que tu fasses.
Rester focus, quoi.
Voilà. Séquencer ses objectifs en mini-objectifs et vraiment garder une flexibilité, parce que ça va bouger tout le temps, quoi.
Ouais. Bah, merci beaucoup, Anastasia. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite avec MyDiaby.
Merci.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.